Nous prenons la parole dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 22. Ézéchiel 22. Alors, c'est une parole que le prophète va recevoir de la part de l'Éternel afin de s'adresser au peuple, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était, nous le savons, captif en Égypte pendant des centaines et des centaines d'années. Et Dieu, par le bras de Moïse, va aller délivrer ce peuple-là. Il va dire à Moïse, je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple, car j'ai entendu les cris de mon peuple. Ce peuple qui souffrait va passer 40 années supplémentaires dans le désert, parce qu'il avait le cou raide, parce qu'il avait gardé les traditions égyptiennes, parce qu'il avait gardé le souvenir des Égyptiens. Et cette étape va durer 40 ans parce que le Seigneur cherchait à purifier ce peuple-là. Et il va dire, voici, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Et dans ce pays-là, il y avait des habitants. Ces habitants avaient pour habitude de prier un Dieu pour la pluie, de prier un Dieu pour le temps des moissons, de prier un Dieu pour différentes choses dont ils avaient besoin. Ils avaient une manière de célébrer les morts. Ils avaient une manière de manger, ils avaient certaines habitudes. Et Dieu dit, mais vous, mon peuple, parce que moi je suis saint, parce que moi je suis à part, vous aussi vous serez à part. Alors le pays là où je vous envoie, vous ne ferez pas comme ces gens-là, parce que vous êtes mon peuple. Et le Seigneur va leur donner toutes sortes de recommandations, notamment sur les aliments à manger et à ne pas manger, afin que dans leur manière de vivre, on discerne clairement que ce peuple-là n'était pas comme les autres, que ce peuple-là était totalement différent, parce que c'était le peuple que Dieu avait choisi, le peuple que Dieu avait sanctifié, afin qu'il soit son serviteur. Et lorsque nous lisons certains psaumes, il est écrit que la volonté de Dieu était que sa lumière luise, sa lumière brille sur la face d'Israël, afin que les autres nations connaissent le nom de l'Éternel. Donc la volonté de Dieu, en mettant ce peuple à part, était aussi de se révéler aux autres peuples, toutes sortes de recommandations, afin que dans leur manière de vivre, la gloire de Dieu soit manifestée. Et ce que le Seigneur a fait avec son peuple, c'est la même chose que le Seigneur a fait avec nous. Nous étions dans le monde avec les traditions mondaines. Nous étions livrés aux mêmes péchés des gens du monde. Nous étions dans toutes sortes de choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur, dans toutes sortes de choses qui nous mettaient, qui faisaient de nous des ennemis de Dieu. Et de la même manière que le Seigneur est descendu lui-même pour descendre, pour délivrer son peuple en utilisant Moïse, le Seigneur est aussi descendu en prenant le corps d'un homme pour mourir à la croix afin de nous donner une seconde nature, de nous donner une nouvelle vie. Sortir de l'Égypte pour aller vers le pays de Canaan était quelque chose de nouveau pour le peuple. Et de cette même manière, lorsque Dieu nous sort du monde, spirituellement, physiquement, nous y sommes encore, mais il nous donne une autre nature, et c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Donc c'est une nouvelle vie qui commence. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la marque physique que Dieu avait mise dans son peuple, dans leur manière de vivre, afin qu'on voit cette différence, nous sommes appelés aussi à faire cette différence dans notre manière de vivre. Lorsque nous vivons, on doit voir la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ou combien même les hommes voient dans notre changement, notre comportement, ne voient pas le lien tout de suite avec Dieu, mais ils doivent quand même voir que ces gens-là sont différents. Même s'ils ne comprennent pas tout de suite pourquoi ils sont différents, mais il doit y avoir une manière de vivre qui manifeste clairement que nous ne sommes pas comme les autres. Et dans ce passage, le Seigneur va parler au peuple, ce peuple qu'il avait mis à part, afin de marcher droitement, afin de faire la volonté de Dieu. Voici, ce peuple va faire l'inverse. Lorsque nous lisons le livre des Juges, nous pouvons voir qu'à maintes reprises, le peuple d'Israël s'est mal comporté. Dieu les a sanctionnés. Ils se sont repentis, ils ont recommencé les mêmes bêtises. Dieu les a sanctionnés. Donc l'histoire d'Israël est une histoire de rébellion, de réconciliation, de repentance. Et c'est le même schéma qui se répète. Et ce même schéma, nous le voyons aussi au milieu des chrétiens. Nous avons reçu une grâce particulière. Israël était le peuple élu de Dieu, mais la Bible nous dit que nous sommes aussi les élus de Dieu. Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes dans la grâce de Dieu et le Seigneur attend de nous que nous puissions avoir une manière de vivre qui soit différente de l'ancienne nature. Nous lisons au verset 23, Ézéchiel 22, verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'a pas été arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein. Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent leurs âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'elles. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà le jugement du Seigneur envers son propre peuple. Il dit à Ézéchiel, voici la ville de Jérusalem, voici le pays là où j'ai envoyé mon peuple. Les personnes qui ont été établies pour paître le peuple avec justice, voici, ils ne le font pas. Ils usent du droit de l'étranger sans commettre de justice. Voici, ils font du peuple comme des proies. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils font l'inverse de ce que Dieu a demandé. Et la colère de Dieu ne fait que s'enflammer. Lorsque le Seigneur voit ce qu'il a fait pour ce peuple, il lui a donné une terre alors qu'il était errant. Il était en captivité. Il s'est révélé à eux. Il leur a fait manger ce que les patriarches n'avaient pas mangé. Et voici, ce peuple va se rebeller contre Dieu en marchant à l'encontre des commandements que Dieu leur avait donnés. Il dit que les prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui dévorent leur proie. Ils dévorent les âmes et s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves auprès d'elles. Que ce soit les prophètes ou les sacrificateurs, comme il est dit au verset 25 et 26, le Seigneur est en colère. Le Seigneur est en colère parce qu'ils ne sont pas les témoins que Dieu avait souhaité, que Dieu avait voulu. Il dit, voici, cette ville est maudite. Elle ne reçoit pas la pluie au jour de la colère. À cette époque, vivre dépendait totalement de Dieu. On ne pouvait pas compter uniquement sur notre propre intelligence, on ne pouvait pas compter uniquement sur notre propre force. À cette époque, on vivait essentiellement de produits qui sortaient de la terre. Que ce soit le pain, que ce soit le fruit de la vigne, que ce soit les arbres fruitiers. Tout dépendait, la production dépendait de la nature. Mais cette nature-là est maîtrisée par Dieu. C'est Dieu qui envoyait la pluie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des périodes où le peuple juif prie particulièrement pour attendre la pluie. Parce que lorsque la pluie n'était pas, alors les jours à venir allaient être très très difficiles. Et Dieu dit, mais vous ne recevez pas la pluie de bénédiction parce que vous ne marchez pas selon mes commandements. Même vous les sacrificateurs, même vous les prophètes, qui êtes censés connaître la vérité, qui êtes censés conduire le peuple, qui êtes censé appliquer mes commandements. Voici, vous aussi, vous vous comportez mal. Alors, si le peuple se rebelle contre Dieu, c'est une chose. Mais si aussi les dirigeants se comportent mal, là, la situation devient critique. Le Seigneur dit, à cause de cela, je cherche un homme parmi ce peuple-là qui puisse tenir à la brèche pour le pays, mais voici, je n'en trouve pas. La responsabilité qu'avait le peuple dans le pays de Canaan, il n'y avait pas que le peuple juif. Il y avait d'autres étrangers qui y vivaient aussi. Et voici, ils devenaient aussi victimes de Dieu. Parce que le peuple qui était élu, le peuple qui devait montrer la voie, se comportait mal. Et si nous transposons ce passage à notre époque, nous pouvons voir aujourd'hui tout ce qui se passe parmi les serviteurs de Dieu. Nous pouvons voir aujourd'hui tout ce qui se passe parmi ceux qui sont appelés chrétiens, qui devraient montrer l'exemple parce qu'ils ont été mis à part. Voici, la déception de Dieu est grande, parce qu'il cherche des justes, mais il n'y en a pas. Et c'est vrai que lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons voir que les justes ont toujours été en minorité, que les hommes que Dieu cherchait ont toujours été en minorité. Le Seigneur dit encore dans le Nouveau Testament que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Potentiellement, nous pouvons voir des gens qui portent le nom de Dieu. Mais dans le cœur des gens, Dieu voit toutes choses. Et sait que si nous, par nos yeux, nous pouvons voir un grand nombre, le Seigneur, lui, par ses yeux, voit un petit nombre. Et c'est ça qui est malheureux. Lorsque nous avons connu la grâce de Dieu, lorsque nous connaissons notre responsabilité, lorsque nous savons la capacité que Dieu nous a donnée pour assumer cette responsabilité, mais que nous utilisons cette responsabilité pour piller, pour dépouiller notre semblable, alors nous sommes là bien malheureux. Les sacrificateurs et les prophètes usaient de leur autorité. La Bible dit qu'ils disaient, voici les oracles de Dieu. Dieu dit, ce n'était pas moi qui parlais. Nous voyons aujourd'hui combien de personnes dépensent de l'argent. Combien de personnes sont menées de gauche à droite. Parce qu'ils sont dépendants des prophéties. Cette prophétie est devenue leur seul moyen de vivre selon eux. Alors les prophètes en profitent. La prophétie qui devait être donnée pour édifier le peuple de Dieu, elle est donnée pour faire du commerce. Elle est donnée pour exister. Elle est donnée pour se faire un nom. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont connus non pas parce que ce sont des très bons enseignants. Ils sont connus parce que ce sont des bons prophètes. Ils sont connus parce qu'ils font des prodiges et des miracles. Ils ne sont pas connus parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Ils ne sont pas connus parce qu'ils se sacrifient pour les autres. Ils sont connus parce qu'ils font des exploits. L'apôtre Paul dit que si nous espérons simplement sur cette terre, alors nous sommes les plus malheureux. Il dit que les prophéties seront abolies. La parole de Dieu ne passera pas. L'amour ne passera pas. Le don par excellence. Mais tout ce qui est don spirituel, tout ce qui est miracle, l'apôtre nous dit que tout cela sera aboli. Beaucoup en ont fait leur cheval de bataille. Ils existent parce qu'ils prophétisent. Ils n'admettent pas d'exister autrement. Les hommes veulent des prophéties, on va en donner. Et de l'autre côté, ils reçoivent leur gloire. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parle des pharisiens, dans Matthieu chapitre 6, il dit qu'en réalité, ils ont leur récompense. Ils ont prophétisé, ils ont eu les honneurs des hommes. Ils étaient habillés dans des beaux vêtements, ils ont eu le respect des hommes. Et Dieu dit que c'est ça leur récompense. Mais ceux qui cherchent des récompenses sur la terre n'auront pas leur récompense au ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si nous cherchons simplement sur cette terre, alors nous sommes les plus malheureux. Les récompenses sur la terre passeront avec ce monde. Mais la Bible nous demande, nous, de nous attacher aux choses d'en haut. Les sacrificateurs qui étaient censés être les intermédiaires entre le peuple et Dieu, ceux qui entraient dans le temple, ceux qui présentaient le sacrifice pour l'expiation des péchés, voici eux aussi se comportaient mal. Voici eux aussi n'étaient pas à l'image de la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse 1:6 que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes les intermédiaires que Dieu a établis afin de se tenir à la brèche pour nos familles, pour nos amis, pour notre pays. Nous sommes ceux que Dieu a mis à part afin d'être les intermédiaires qui vont s'humilier, qui ne vont plus présenter un sacrifice comme ils se faisaient autrefois, mais qui vont eux-mêmes se livrer en sacrifice dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, dans l'humiliation, afin que le Seigneur entende les cris et épargne le pays. Dieu dit, voici, je cherche un homme, un seul, qui se tienne à la brèche, mais voici, je n'en trouve pas. Voici, je n'en trouve pas. C'est vrai que si on arrête le message à ce moment, on dira, ben, c'est vraiment dramatique, c'est vraiment triste. Mais la réalité, c'est que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Alors, combien même le Seigneur nous interpelle sur notre responsabilité, nous savons que la parole de Dieu est une parole d'espérance. La parole de Dieu ne produit pas la tristesse. La parole de Dieu ne produit pas la culpabilité qui va nous emmener dans la dépression nerveuse. La parole de Dieu ne nous juge pas. Elle nous interpelle pour nous sauver. Elle nous interpelle pour faire de nous des hommes faits. Elle nous interpelle pour faire de nous de véritables disciples, pour faire de nous de véritables enfants de Dieu. Alors combien même cette parole était difficile, ce n'était pas la première fois que Dieu prononce des jugements contre son peuple. Ce n'était pas la première fois que le Seigneur soit en colère contre son peuple. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du livre des Juges, où le peuple a péché à plusieurs reprises, mais Dieu a toujours eu compassion de son peuple. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu-là n'a pas changé. Combien même nous avons failli à notre responsabilité, combien même nous ne sommes pas engagés au moment où Dieu l'attendait, la bonne nouvelle, bien-aimée, c'est que ce n'est pas trop tard avec Dieu. Ce n'est pas trop tard avec le Seigneur. Le monde nous dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. En partie, c'est vrai. Tant que nous sommes debout encore par la grâce de Dieu, alors il y a encore l'espoir de marcher avec Dieu. Il y a encore l'espoir que la brèche soit réparée. Il y a encore la brèche, il y a encore l'espoir d'être restauré. Il y a encore l'espoir d'être consolé. Il y a encore l'espoir d'être pardonné. Et c'est cette bonne nouvelle que le Seigneur est venu apporter. Et nous allons voir l'exemple de plusieurs personnes qui ont entendu les jugements de Dieu, mais qui connaissaient leur Dieu, pour savoir que le Seigneur n'attendait pas tout simplement la foule. Le Seigneur attendait tout simplement un seul homme qui se tienne à la brèche. Dieu n'est pas le Dieu du nombre. Dieu est le Dieu, premièrement, du juste. Mieux vaut un seul juste qui marche dans la droiture avec Dieu qu'une assemblée pleine remplie de pécheurs. Le Seigneur n'en a pas besoin parce que nous ne serons dans ce cas-là d'aucune utilité. Dieu cherche un seul homme. Toutes les fois où le Seigneur a voulu intervenir pour délivrer son peuple, il n'a pas choisi toute une armée. Si on prend encore l'exemple du livre des Juges, Dieu établissait un homme. Un homme qui comprenait la vision de Dieu. Un homme qui comprenait le cœur de Dieu. Un homme qui avait foi dans le Seigneur pour pouvoir être l'instrument qui allait conduire le peuple dans la délivrance. Dieu cherche un seul homme. Selon le monde, nous pouvons regarder au nombre, tel qu'on le voit aujourd'hui lorsqu'on voit les sports. Tout se joue à nombre égal. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Notre regard ne doit pas se porter à l'image des païens. Notre regard ne doit pas être à l'identique de ceux des païens. Nous devons tout simplement regarder à Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas par son armée qu'un roi gagne des guerres, mais c'est par le bras de l'Éternel. Ce n'est pas par une armée que nous gagnons une guerre, mais nous gagnons simplement parce que nous sommes dans le bon camp, dans le camp du plus fort. David dit que ce n'est pas une question de guerre, ce n'est pas une question de lance, ce n'est pas une question d'épée, car la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas une histoire de combat, C'est tout simplement la question que Dieu cherche un homme qui va se lever pour confirmer que réellement c'est Dieu qui est Dieu. David n'était pas venu pour combattre Goliath. Il était venu confirmer que la victoire appartenait à Dieu. Il dit, ce n'est pas une question de bagarre. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir que le plus fort, c'est l'Éternel. Un point, c'est tout. Et ce que Dieu attend de nous, lorsqu'il dit que je cherche un homme qui va se tenir à la brèche, ce n'est pas pour qu'on puisse faire des exploits ou faire toutes sortes de prouesses. C'est que nous puissions nous tenir là où il veut. Que nous puissions tout simplement lui faire confiance afin que lui puisse nous utiliser comme un instrument qui va faire sa volonté. Il est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes la création de Dieu pour accomplir ce que Dieu a déjà planifié. Il demande tout simplement que nous puissions nous tenir sur la ligne de départ, que nous soyons disposés à partir. Et tout le reste, Dieu le fera. Dieu cherche un seul homme qui va se tenir à la brèche. Un seul homme qui va accepter de faire confiance à Dieu. Un seul homme qui a compris que Dieu était bon. Un seul homme qui a compris que Dieu aimait les hommes. Lorsque Dieu a voulu frapper le peuple, ce peuple est un peuple au cou raide. Il s'est fait un veau d'or. Moi, je les ai sortis de l'Égypte. Ils se font un veau d'or et ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Non seulement le peuple s'était mis, mais ils avaient eu l'approbation du sacrificateur qui était présent, Aaron. Dieu dit, même les sacrificateurs ne sont pas dans la vérité. Même les sacrificateurs abandonnent ma loi. Ce peuple avait désobéi Dieu. Ce peuple avait trahi le Seigneur. Dieu n'avait pas besoin de la repentance de tout le peuple pour changer son plan. Il n'avait pas besoin que tout le peuple pleure. Il avait besoin d'un seul homme qui se tienne à la brèche. Un seul homme qui se tienne comme intermédiaire. Lorsqu'on imagine une brèche, bien aimé, imaginez que la salle se divise en deux. Et entre les deux rangs, il y a une tranchée qui est très profonde. Alors, il faut une personne qui s'allonge entre les deux pour que les autres puissent passer d'un côté à l'autre. Dieu dit que c'est cet homme-là qui cherche. La division, la séparation a été faite entre le peuple et Dieu. Mais il avait établi les sacrificateurs et les prophètes pour se tenir à la brèche. Voici, ils n'ont pas joué leur rôle. Voici, Dieu nous a choisis pour jouer ce rôle. Mais il cherche un seul homme. Alors quand le peuple avait péché, s'était détourné de Dieu, il y avait un homme qui s'est souvenu que Dieu aimait trop son peuple pour réellement le détruire totalement. Il y a un homme qui s'était souvenu. Il connaissait le cœur de Dieu. Qui a dit, mais Seigneur, que vont dire les peuples si tu détruis ce peuple-là? Que vont dire les autres nations? Voici, tu l'as sorti de l'Égypte, ensuite pour le faire mourir. Les peuples vont se moquer de toi, mais c'est quel Dieu qui délivre une personne ensuite pour le tuer? C'était incohérent. Moïse s'est humilié. Moïse a prié. Il était cet homme-là qui se tenait à la brèche parce qu'il savait qu'en réalité, même si Dieu avait parlé, l'Éternel aimait son peuple. Il a dit, Éternel, si tu veux détruire ce peuple, alors efface aussi mon nom du livre de vie. Alors tue-moi aussi. Si tu ne veux plus de ce peuple, alors enlève-moi aussi. C'est comme si Moïse disait au Seigneur, mais pourquoi tu m'as établi? Si tu m'as choisi pour faire sortir ce peuple, pour l'emmener vers la terre promise, et qu'ensuite tu l'enlèves, pourquoi m'as-tu choisi dans ce cas-là? Pourquoi as-tu fait de moi ton serviteur si finalement je deviens inutile? Tu m'as pris pour une utilité. Et voici Moïse ne s'est pas attardé à ce que le Seigneur avait dit. Ce que le Seigneur a dit est une chose. Mais ce que Dieu avait confié à Moïse était aussi une autre chose. Quand bien même le Seigneur avait parlé, Quand bien même le Seigneur allait détruire ce peuple, Moïse a voulu accomplir son rôle jusqu'au bout. Il a voulu accomplir son rôle jusqu'au bout parce qu'il savait que Dieu aimait son peuple. Nous lisons Genèse chapitre 6. Nous reviendrons sur Moïse après. Genèse 6. À partir du verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Et plus loin, après que le Seigneur ait décidé cela, il dira que il ne décidera plus, il ne fera plus mourir les hommes. Après que le déluge soit passé, le Seigneur va faire une alliance avec l'homme. Et cette alliance va être symbolisée par un arc-en-ciel. Et Dieu dit qu'à partir de cette alliance-là, il ne fera plus la même chose qu'il avait faite donc, par le déluge de faire mourir les hommes. Voici, toute la terre était remplie de violence, la Bible nous dit. Les hommes n'étaient pas justes, ils se livraient à toutes sortes de péchés. Mais Dieu s'est souvenu qu'il y avait quand même un juste. Il y avait un juste. Le Seigneur pouvait arrêter aujourd'hui, de ce jour-là, le sort de toute l'humanité. Mais voici simplement parce qu'il y avait un homme qui était juste, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui avait fait le choix de faire confiance à Dieu. À cause de cet homme-là, le Seigneur a épargné le sort de toute l'humanité. Il n'en a pas cherché 10, il en a cherché tout simplement un seul. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle de savoir que le Seigneur n'est pas le Dieu du nombre. Lorsque nous sommes dans certains combats, lorsque nous sommes devant certaines contradictions, devant certaines oppositions, de savoir que même si derrière nous, il n'y a pas du monde, mais que nous, nous cherchons simplement à demeurer dans la volonté de Dieu, à partir de nous, le Seigneur peut faire quelque chose. À partir d'une seule âme, le Seigneur peut changer le cours des choses. La conversion de ceux que tu pries ne dépendra pas des sacrificateurs, des prophètes, mais elle peut dépendre de toi. Même si les sacrificateurs se comportent mal, même si ceux qui dirigent l'église se comportent mal, à partir d'un seul homme qui se tient à la brèche, celui qui a compris le Seigneur, Dieu peut changer le cours des choses. Le Seigneur peut faire des exploits avec un petit nombre. Dieu s'est souvenu que même si tous les hommes étaient mauvais, il y en avait quand même un. À cause de ce un-là, à cause de cette personne-là, le Seigneur a changé le cours des choses seulement parce qu'il y avait une seule personne qui se tenait à la brèche. Bien-aimé, lorsque nous comprenons que le Seigneur s'intéresse à un seul homme, il dit que lorsqu'il y a une seule brebis qui est perdue, il laisse là les 99 pour aller chercher la brebis qui est perdue. Dieu tient compte de la prière d'un seul juste. Quand bien même Tous sont pourris. Juste parce qu'il y a un juste, le Seigneur pourra épargner. Ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimée. Lorsque nous prions devant le Seigneur, de savoir que même si tous les membres de la famille sont contre nous, mais seulement parce qu'un seul est sincère, Dieu peut changer le cours des choses. On ne nous a pas dit que les enfants de Noé marchaient avec Dieu. On ne nous a pas dit que ses fils marchaient avec Dieu. On a dit que Noé marchait avec Dieu. Parce que Noé marchait avec Dieu, sa famille a été épargnée. Parce que Noé marchait avec Dieu, à partir de cette famille, la terre a été repeuplée. Parce qu'un seul homme marchait avec le Seigneur. Pour qu'un arbre pousse, bien-aimé, il suffit simplement d'une seule semence. Dieu est grand et avec une seule personne, il peut faire des choses extraordinaires. Mais voici, il dit, je cherche un homme, mais je n'en trouve pas. Je cherche un seul homme qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve pas. Nous prenons un autre exemple, Genèse 45. Nous lisons à partir du verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Donc je crois que nous connaissons l'histoire de Joseph qui avait été vendu comme esclave par ses frères. Ils ont fait croire à leur père que Joseph avait été déchiré par un lion, et ils ont rapporté les vêtements ensanglantés. Et pendant des années et des années, les frères ne savaient pas ce qu'était devenu Joseph après qu'il soit esclave, mais surtout le père pensait qu'il était mort. Et voici, il y a une famine qui est arrivée sur tout le pays. Et entre-temps, Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. » Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voilà la déclaration de Joseph, qui était en position de force vis-à-vis de ses frères. Lui, qui était le cadet de ses frères, qui a été livré comme esclave. Après ça, il a été emprisonné. Voici, Dieu l'avait établi, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'était la volonté de Dieu. Alors, au moment où Joseph devient gouverneur d'Égypte, une grande famine va arriver dans tout le pays. Et lorsque nous lisons dans la Bible, plusieurs fois lorsque le Seigneur a voulu punir son peuple, il a envoyé la famine, puisque la famine était due à la sécheresse. Or, lorsque l'eau ne tombe pas, la production ne peut pas se faire. Donc, il y a eu 5 années de famine dans lesquelles beaucoup d'hommes allaient mourir. Et ce peuple, qui n'était pas aussi nombreux qu'aujourd'hui à l'époque, peut-être que tout le peuple d'Égypte, tout le peuple, par exemple, hébreu, serait mort. Mais voici, il fallait un homme qui se tienne à la brèche. Il fallait un homme qui soit considéré juste devant Dieu pour qu'il soit l'instrument de Dieu pour le salut des hommes, le salut du peuple juif. La volonté de Dieu, ce n'était pas que ce peuple meure. Joseph dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Dieu connaissait le plan qu'il avait pour son peuple. Et quand même son peuple s'était mal comporté. Le Seigneur voulait conserver son peuple, l'existence de ce peuple-là, mais il cherchait un seul homme. Il fallait qu'un homme se tienne à la brèche afin qu'il soit un instrument pour le salut de tout ce peuple-là. Et Dieu a trouvé dans ce juste-là Joseph, qui a accepté de souffrir, qui a accepté de porter la croix, qui a accepté d'être jugé injustement, qui a accepté d'être accusé injustement pour être l'instrument de Dieu. L'instrument de Dieu, ce que Dieu a mis à part afin qu'il se tienne à la brèche, passera par des temps difficiles. Dès l'instant où nous faisons le choix de devenir enfants de Dieu, la Bible nous dit que celui qui veut me suivre, dit le Seigneur, porte sa croix. Celui qui se tient à la brèche, c'est celui qui va accepter de porter la peine pour les autres. Celui qui va accepter d'être humilié pour les autres. Celui qui va accepter d'être sacrifié pour les autres. Dieu dit, mais voici, je n'en trouve pas. Parce que, comme nous l'avons lu dans le premier passage d'Ézéchiel, les sacrificateurs, les prophètes, ils pillaient les autres. Ils cherchaient à s'enrichir sur cette terre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a très peu d'hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont attachés aux choses de ce monde. Ils veulent posséder pour leur propre gloire, pour leur propre chair. Ils ne veulent pas être, comme le Seigneur dit, être riches pour Dieu. Mais ils veulent être riches pour eux, eux-mêmes. Ceux dont l'apôtre de Paul appelle les serviteurs du ventre. Ils servent leur propre ventre. Dieu cherche un homme qui va accepter de renoncer au monde, qui va accepter de ne pas aimer le monde, qui va accepter de vivre dans le contentement, qui va accepter de vivre avec ce que Dieu lui donne. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche afin d'être cet instrument-là pour Dieu. Joseph l'a accepté. Et nous voyons la conséquence. Dieu lui a donné la sagesse pour gérer cette famine. Il lui a donné la sagesse pour sauver son peuple. Mais il fallait que ce peuple vive. Parce que si ce peuple ne vivait pas, le Messie allait venir d'où? Puisque selon le plan de Dieu, le Messie devait venir par Israël. Si le peuple d'Israël n'existait plus, comment les nations auraient pu se repentir? Comment aurions pu nous croire au nom du Seigneur Jésus? Il a fallu qu'il y ait des personnes qui se tiennent à la brèche pour que la parole de Dieu soit proclamée, pour que l'évangile avance. Dieu cherche des personnes qui se tiennent à la brèche afin que la parole de Dieu se fait entendre. Dieu cherche un seul homme. Nous voyons aujourd'hui l'évangile répandu dans tous les pays. Mais le Seigneur a commencé avec combien de disciples? Le Seigneur a commencé avec combien de serviteurs pour que tout le monde entier aujourd'hui connaissent le nom de Jésus-Christ. Il n'y en avait pas des masses. Dieu cherche un petit nombre, Dieu cherche un seul homme qui va se tenir à la brèche. Ça a été le cas de Paul, qui a fait des voyages missionnaires, qui est arrivé jusqu'en Europe, qui a voyagé partout en Asie pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit connu. Ce travail ne s'est pas fait par beaucoup de personnes. Dieu cherchait un homme et il avait trouvé Paul pour ce travail-là. Nous prenons une fois de plus l'exemple de Moïse, Exode 32. À partir du verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Après que Moïse parle au peuple encore sévèrement, nous arrivons au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, je vais monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Un homme qui se tient à la brèche, qui va accepter de porter le peuple, qui va accepter de porter la peine du peuple. Dieu cherche un seul homme qui connaisse Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. La Bible dit qu'il parlait face à face avec Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que nous ne verrons pas Dieu face à face, mais nous pouvons avoir une communion comme celle que Moïse avait, une communion parfaite avec Dieu, où Dieu nous communique des choses, où Dieu nous révèle les pensées de son cœur. C'est possible. Moïse avait compris cela. Et lorsqu'il était devant le Seigneur, il savait comment parler pour toucher le cœur de Dieu. Il savait que Dieu était amour. Il savait que Dieu aimait son peuple. Et quand même le Seigneur pouvait être en colère comme son peuple, Moïse savait qu'il y avait des justes à qui Dieu avait fait des promesses. « Je vous donnerai cette terre-là et vous le posséderez à jamais. » Il dit, « Éternel, souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi de cela. Souviens-toi de ses serviteurs. Si tu ne veux pas le faire à cause de ce peuple-là, mais fais-le à cause de tes serviteurs. » Il connaissait le cœur de Dieu. Le Seigneur ne pouvait pas ne pas être attentif à la prière de Moïse. Aujourd'hui, lorsque nous prions devant le Seigneur, nous ne prions pas parce que nous méritons quelque chose. Nous ne prions pas parce que nous avons fait des exploits. Nous prions parce que Jésus-Christ a tout accompli. Alors combien même nous sommes en faiblesse devant Dieu, mais nous pouvons dire, Seigneur, même si ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de Jésus, souviens-toi de ton Fils qui a souffert à la croix. Souviens-toi de ton Fils qui est mort pour tous ces hommes. Donc même si tu ne le fais pas pour les hommes, mais fais-le à cause de ton Fils. Fais-le à cause de Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié. Dieu ne peut pas ne pas être attentif à ce genre de prière-là. Parce qu'il y a des hommes qui ont porté la peine. Il y a des hommes qui ont accepté de souffrir, qui ont accepté de se tenir à la brèche. Alors combien même, personne d'entre nous peut prétendre être comme Jésus-Christ. Mais si nous, nous sommes justes devant Dieu, Dieu entendra aussi nos prières. Et combien même nous ne serons plus là, peut-être à cause de nous, Dieu fera aussi certaines choses. C'est pourquoi David dit dans le psaume 37, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » J'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai vu le juste et j'ai vu ses enfants. Ils n'ont manqué de rien. Parce que lorsque un juste est juste, Dieu se souviendra aussi de sa descendance. C'est pourquoi il dit, je bénis jusqu'à la millième génération de tous ceux qui m'aiment. Dieu se souviendra à cause d'un seul homme. Bien souvent, nous voyons le souci que les hommes ont de pouvoir laisser des héritages à leurs enfants. Ils se tracassent parce qu'il n'a pas pu laisser une maison. Il se tracasse parce qu'il n'a pas pu laisser une assurance vie. David dit, moi j'ai vu le juste et j'ai vu sa postérité. Dieu s'en est occupé. Le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est de connaître Dieu. C'est d'être juste nous-mêmes. En étant juste nous-mêmes, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu se souviendra. Il y a des sacrifices qui parlent. La Bible dit que le sacrifice de Abel parle encore jusqu'à aujourd'hui, quoique mort. Dieu s'est souvenu du sacrifice d'Abel, qui était un sacrifice tellement agréable qu'il dit que jusqu'à aujourd'hui encore, le sacrifice d'Abel a encore une bonne odeur devant le trône de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que les œuvres des saints les suivront. Lorsque on voit dans Apocalypse, la Bible dit qu'il y avait un ange qui tenait une coupe, et dans cette coupe-là, il y avait la prière des saints. Ce qui est agréable à Dieu, Dieu s'en souvient pour l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Ces trésors dans le ciel ne vont jamais pourrir. Ni la rouille, ni la teigne, rien ne pourra atteindre. Ce sont des trésors qui vont demeurer éternellement. Et les prières des saints, les prières des justes, ceux qui marchent droit devant Dieu, Dieu se souviendra d'eux, mais il se souviendra aussi de leur postérité. Dieu cherche un seul juste qui se tienne à la brèche. Le Seigneur avait dit à ses disciples, « Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé, d'autres ont travaillé avant vous. » Beaucoup de travail que nous récoltons aujourd'hui, même quelquefois spirituel, sont l'œuvre des prières des martyrs de la foi, l'œuvre des prières de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils sont morts à cause de cela, il y a des bénédictions que nous recevons aujourd'hui. Parce que leurs cris, leurs prières sont montées jusqu'à Dieu. Lorsque le Seigneur a prié dans Jean chapitre 17, il a dit, Éternel, je te prie pour cela, mais je te prie aussi pour tous ceux qui croiront en mon nom. Le Seigneur avait prié pendant qu'il était sur la terre, mais il dit, je te prie pour tous ceux qui viendront après moi et qui croiront en mon nom. Lorsque nous prions aujourd'hui, bien-aimés, soyons certains que si c'est une prière qui est agréable, l'Éternel s'en souviendra. La prière du juste, la Bible nous dit dans Proverbes 15:8, est agréable devant Dieu. Dieu prend plaisir à écouter la prière du juste. Alors soyons certains, bien-aimés, puisque Dieu dit qu'il y a tellement peu de justes, qu'il y a tellement peu de serviteurs, qu'il y a tellement peu d'ouvriers, qu'il y a tellement peu qui se tiennent à la brèche. Lorsque le Seigneur le trouve, alors il le garde aussi en mémoire. Il y a des chants que nous aimons, bien-aimés. Lorsque on aime un chant, on le retient et on le réécoute, même si c'est un chant. Certains diront, oui, mais c'est démodé. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est sorti ce chant-là. Mais lorsque c'est un chant qu'on aime, on prend toujours plaisir à l'écouter. Et ce que Dieu aime, il le conserve. Et il prend toujours plaisir à le voir et à l'écouter. Il prend toujours plaisir à cela. Le peuple d'Israël avait péché. Dieu avait voulu frapper encore. Il a dit, à cause de mon serviteur David, je ne le ferai pas. À cause de David, je ne le ferai pas. Il ne l'a pas dit à cause du peuple. Non, à cause de David. Dieu cherche un seul homme qui se tiennent à la brèche. Parce que nous sommes justes, Dieu se souviendra des nôtres. Parce que nous sommes justes, Dieu se souviendra de l'homme. Parce que nous nous serions tenus à la brèche. Dieu cherche un seul homme. Le Seigneur dit que si le grain de blé ne tombe par terre et ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Mais si un seul grain de blé tombe dans la bonne terre, alors il porte aussi beaucoup de fruits. Si un seul, Dieu ne demande pas beaucoup, un seul qui se tienne à partir d'un seul, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Moïse a connu le cœur de Dieu, il a été prêt à se sacrifier. Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, alors là où tu as écrit mon nom dans ton livre, enlève aussi mon nom. Quelle révélation! On ne parlait pas du paradis à cette époque-là, mais Moïse avait la révélation déjà qu'il y avait un livre de vie quelque part, où Dieu écrivait les noms des siens. Alors il dit que si tu enlèves ce peuple-là, enlève aussi mon nom dans le livre que tu as écrit. Moïse a été prêt à porter. Et devant ce genre de prière-là, Dieu ne peut pas rester insensible. Dieu ne peut pas rester insensible. Ce sont des genres de prières qu'à chaque fois que Dieu a voulu frapper, il a été obligé de changer la position de son cœur. Ces hommes-là ont pu faire pencher la balance de l'autre côté. Combien même Dieu avait parlé que je vais frapper ce peuple-là, je vais détruire ce peuple-là. Mais ces hommes ont accepté de se tenir à la brèche parce qu'ils connaissaient Dieu. Dieu est trop amour pour rejeter à jamais. Dieu est trop amour pour ne pas pardonner. Ces hommes-là l'avaient compris. Et ils se sont humiliés, ils ont fléchi les genoux. Aujourd'hui, nous entendons des personnes dire, mais sans avoir reçu des révélations, bon, moi je ne prie pas parce que je crois que cette personne-là, c'est fini. Même si la personne est la plus mauvaise, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, nous devons jouer notre rôle de sacrificateur. Combien même les chrétiens autour diront, non, à mon avis, lui, il est perdu. Combien même la foule dira que lui, il est dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Si les choses ne sont pas claires, que Dieu ne l'a pas parlé ouvertement, que cet homme est dans le blasphème du Saint-Esprit, combien même toute la majorité s'accorde pour dire que c'est fini pour lui. Dieu cherche un seul juste qui va se lever et va prier afin de toucher le cœur de Dieu pour que cette âme soit sauvée. Car la valeur d'une âme, la Bible dit, a une très grande valeur aux yeux de l'Éternel. A une très grande valeur. Le Seigneur est mort pour tous les hommes. Pour tous les hommes. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2:5 que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2:4. Parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, sans exception. Dès l'instant où nous avons cette connaissance-là, alors nous devons être certains, bien-aimés, que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, cherche simplement une seule personne qui se tienne à la brèche. Tu arrives à la réunion d'intercession, tu vois que vous n'êtes que deux. Tu commences déjà à souffler. Ah, mais les chrétiens, mais vraiment, ils sont où? Ah, mais on va prier qu'à deux. Mais non, bon, on annule la prière, on reporte. Ah, parce qu'on n'est que deux. On va là-bas, on n'est que deux. Bon, ce n'est pas grave, on annule. On trouve. Non, bien-aimé. Si quelque chose était programmé pour tous, vous arrivez, vous n'êtes que deux, les autres ne sont pas venus. Ce n'est pas un problème. Que la gloire revienne à Dieu, à lui seul. Dieu cherche une seule personne qui se tienne à la brèche. Dieu ne cherche pas la foule, Dieu ne cherche pas le nombre. Ce n'est pas le Dieu du nombre, c'est un Dieu qui veut marcher avec ceux qui ont confiance en lui. Matthieu chapitre 8. Pour finir. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur s'est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même parmi le peuple élu, le peuple dans lequel le Seigneur avait établi des sacrificateurs, avait établi des prophètes, avait établi des hommes droits. Le Seigneur dit que même parmi ces gens-là, je n'ai pas trouvé une foi comme celle-ci. Dieu dit, regarde ce peuple-là, il dit à Ézéchiel, je cherche parmi eux un seul juste qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve pas. Et le Seigneur dit, mais même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Dans tout le cheminement, tout le chemin que le Seigneur avait parcouru, son temps de vie jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas rencontré une aussi grande foi dans le pays élu de Dieu. Celui qui avait eu les révélations de Dieu par des prodiges et par des miracles en Égypte. Le Seigneur dit que parmi ce peuple-là, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est une grande leçon, bien-aimé. C'est une grande leçon. Il y a des événements que nous pouvons vivre sur la terre. Nous voyons les païens s'agiter. Et nous voyons quelquefois les païens être à l'aise. Nous voyons quelquefois les païens ne pas perdre espoir. Ils nous font la leçon. Ils ont un comportement, finalement, qui montre qu'il y a quelque chose que nous avons raté. Qu'il y a un wagon que nous avons loupé. Ce sont eux qui nous font la leçon. Nous voyons certains comportements de païens en faisant le bien, en luttant contre l'alcool, en luttant contre le tabac, toutes sortes de campagnes qui sont des causes justes, humainement parlant. Même des païens comprennent ça. Et certains chrétiens n'ont pas compris. Qui s'enivrent encore dans l'alcool. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, dans Matthieu 5, 20, « Mais si votre justice à vous ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, donc vous n'êtes pas dignes du royaume des cieux. » Les gens du dehors vous font la leçon. Le Seigneur dit, « Mais même en Israël, parmi les miens, je n'ai pas vu une aussi grande foi. » Quelle honte, bien-aimé, de voir quelquefois les païens surmonter des épreuves mieux que des chrétiens, eux qui n'ont pas Dieu. Être plus hospitaliers que même des chrétiens, eux qui n'ont pas Dieu. Être plus courageux même que les chrétiens, eux qui n'ont pas Dieu. Nous sommes en face d'une personne, nous avons honte de parler du Seigneur. Et voici des païens vont mourir dans le feu pour sauver d'autres âmes. Voici, des païens vont prendre des risques, aller faire des travaux missionnaires pour la Croix-Rouge, au milieu des guerres. Et devant une seule âme, on a quelquefois même honte de dire « Dieu te bénisse ». Le Seigneur dit « Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. » Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller. La Bible dit que le Seigneur était étonné. L'étonnement, c'est la surprise. Et on est surpris dans quelque chose qui paraît comme anormal. On pensait que les choses étaient comme ça, on se rend compte que non, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur était étonné de voir que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui manifeste la foi comme le peuple devait le faire. Et c'est par ce genre de comportement-là qui encourage le Seigneur à manifester son salut. Quand bien même on pouvait dire que le Seigneur était venu premièrement pour le salut des Juifs. Mais nous voyons là la volonté de Dieu de ne pas se limiter simplement au salut des Juifs. Si les gens du dehors sont prêts à lui faire confiance, un seul homme qui a manifesté cette foi, alors c'est encourageant d'aller vers les autres. Un seul homme, un seul païen. Alors, c'était vraiment l'image que oui, le salut donc, peut aussi être donné à ceux qui n'ont pas été élus. Nous avons été élus. Nous avons fait le choix en répondant « Amen » lorsque Dieu nous a appelés. Alors Dieu dit que je cherche une seule personne qui se tienne à la brèche. Non pas parmi les gens du monde, mais parmi les gens de son Église. Parmi ceux qu'il appelle aujourd'hui ses enfants. Dieu cherche une personne qui se tienne à la brèche, qui ne va pas perdre son temps dans des polémiques inutiles. Il dit au sacrificateur, vous avez fait les choses, vous avez traité l'étranger de manière injuste. Dieu cherche des personnes qui vont être justes dans leur comportement, qui vont être justes dans leur parole, qui ne vont pas chercher leur propre intérêt, mais qui vont juger toute affaire selon la parole de Dieu et non pas selon leur propre conviction. Si Dieu dit qu'il cherche, bien aimé, c'est que c'est rare. Mais s'il cherche, c'est aussi qu'il a l'espoir de trouver. Et si Dieu a l'espoir de trouver, c'est que quelque part, il sait qu'il y en a aussi. Et c'est de cela que nous devons être, bien aimés, ceux que Dieu a trouvés pour pouvoir se tenir à la brèche. Le Seigneur nous conduira dans toute la vérité. Le Seigneur nous interpellera. Si ça n'a pas été fait ce soir, mais je crois que le Saint-Esprit continuera son œuvre afin que là où Dieu nous attend, nous puissions y être et y être surtout d'une manière sérieuse. En faisant ce que nous pouvons faire, Dieu ne nous demande pas des exploits. Il demande tout simplement qu'on soit là où il veut. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. Faisons notre part et laissons au Seigneur aussi faire sa part. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire une fois de plus. Merci Seigneur de gloire pour l'œuvre de la croix. Car si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, si aujourd'hui nous sommes tes sacrificateurs, si aujourd'hui nous sommes tes serviteurs, Seigneur, c'est parce que tu as eu compassion de nous. C'est toi qui nous as donné une nouvelle vie, afin que nous soyons semblables à ton Fils unique. Seigneur, tu nous as sortis du monde, afin que nous soyons, Seigneur de gloire, à ton image. Tu nous as sortis du monde, Seigneur, afin de nous donner une nouvelle vie, de nous donner une espérance, Seigneur de gloire. Et c'est là notre volonté. Nous reconnaissons, Seigneur de gloire, que bien souvent la chair a pris le dessus. Mais Seigneur, si nous pouvons nous approcher de toi encore aujourd'hui avec assurance, c'est parce qu'il est écrit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Il est écrit, Seigneur de gloire, que tu ne te lasses de pardonner. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Éternel de gloire, nous sommes là devant toi, Seigneur, parce que nous t'avons choisi comme Dieu, pour Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur de gloire, d'être du nombre, Seigneur de gloire, de ceux qui vont se tenir à la brèche pour ton œuvre, pour le salut des âmes, pour Israël, Seigneur de gloire, et pour nous-mêmes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur de gloire, à être vigilants, à ne pas être distraits par les choses de ce monde, Seigneur de gloire, qui nous éloigne de toi, qui occupe toutes nos pensées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à nous tenir à la brèche, à demeurer à la place dans laquelle tu nous as placés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous voulons nous attendre à toi. Et comme Noé, nous voulons marcher avec toi, marcher par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur de gloire, comme ce centenier, Seigneur de gloire, manifester la foi. La foi, Seigneur de gloire, qui se perd au milieu de ton peuple. Seigneur de gloire, nous voulons la manifester au nom de Jésus-Christ. Combien même, Seigneur de gloire, le nombre est peu. Seigneur, nous voulons que nos vies servent, Seigneur de gloire, à t'honorer, à te glorifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous voulons être de véritables témoins de ta résurrection. Des véritables témoins de l'Évangile. De véritables témoins de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Que notre vie, Seigneur de gloire, soit à l'image de ce que tu attends d'un enfant de Dieu. Car il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont ceux-là les enfants de Dieu. Seigneur, règne dans nos vies. Règne dans nos vies, Seigneur de gloire, afin que ta volonté soit parfaite, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, car nous croyons, Seigneur de gloire, que tu as entendu nos cris, que tu as entendu nos prières, Seigneur. Nous voulons que les choses changent. Si la prière était ennuyeuse, l'intercession était difficile, Seigneur de gloire, que nous puissions être conduits librement par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions prendre goût, Seigneur de gloire, à la prière, Seigneur. Moïse parlait avec toi face à face. Seigneur, par la prière, nous sommes aussi face à face avec toi. Par la prière, nous sommes en intimité avec toi. Aide-nous, Seigneur de gloire, à faire de la prière notre pain, Seigneur, notre nourriture, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur de gloire, que ton nom soit glorifié dans tous les siècles des siècles.